I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, face à la morne pleine de ce mois de mars, qui comme dirait l'autre risque bien de ne pas passer l'hiver, a décidé d'opter pour un contre-pied des plus radicaux et d'empiéter sur son créneau habituel pour vous recoser d'une ressortie, car merveille du monde actuel, ils sont nombreux les succès d'antan à nous revenir en salle, et comme nous n'avons pas tous eu la chance d'avoir vu la totalité des meilleurs moments du cinéma des années 80-90 sur grand écran, nous ne pouvons que nous en réjouir. C'est ainsi que nous allons là tout de suite causer d'un petit film d'un quasi inconnu, La liste de Schindler de Steven Spielberg. Jamais entendu parler, mais je suis sûr que le trio de Juste entre les justes qui m'accompagne en sera plus que moi. Rafik Djoumi, salut Rafik.
Salut Thomas.
Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Et Perrine Kenson, salut Perrine.
Salut Thomas.
C'est nos ciné épisode 180, c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
La liste de Schindler, donc 1993, pour ceux qui n'ont jamais vu cette pierre angulaire de l'œuvre de ce bon vieux Steven, le film nous raconte l'histoire d'un personnage réel, Oscar Schindler, joué ici par Liam Neeson, un industriel allemand membre du parti nazi qui va sauver 1200 juifs de l'extermination en les protégeant et en les faisant travailler dans ses usines. Un personnage ambigu, ne serait-ce que par les liens d'amitié intéressés qu'il entretenait avec le terrifiant Amon Göth, commandant SS du camp de concentration de Plaszow, incarné ici par Ralph Fiennes.
La loi m'oblige à vous le dire, monsieur, je suis juif.
Bon, moi je suis allemand. Et puis voilà.
Devant la caméra de Spielberg, outre Neeson et Fiennes, on trouve aussi Ben Kingsley, Caroline Goodall et M. Beth Davids. Que dire de la liste de Schindler aujourd'hui? Peut-être un mot sur la jeunesse du projet. Rafik, je me tourne vers toi parce que tu es un peu l'historien, la mémoire de cette émission due à ton grand âge.
Parce que Julien n'est pas là pour commencer.
Et parce que Julien Dupuis n'est pas là pour commencer. On pense tous à lui, signer la pétition.
Que je fumais aussi la pipe et que j'avais...
Tout à fait. Oncle Rafik, raconte.
Et des accoudoirs sous les coudes. C'est un projet qui, pendant longtemps, enfin pas pendant longtemps, mais qui à un moment donné a été entre les mains de Martin Scorsese, en fait. C'est un projet d'adaptation que Scorsese devait faire, qui à l'époque où Spielberg, lui, était sur les nerfs à vif. J'ai jamais vraiment réussi à savoir à quel moment il y a eu un switch entre les deux.
On a échangé nos scénarios, nouveau concept de télé-réalité.
Sachant qu'à la même époque, Stanley Kubrick développait un film qui s'appelait Aryan Papers, qui lui ne... À ma connaissance, n'allait pas jusqu'au camp, mais se concentrait sur l'avant, c'est-à-dire d'une femme qui cherchait à faire passer sa famille, ses enfants pour des enfants ariens en modifiant donc leur papier. Et Kubrick, lui, avait beaucoup de mal à faire ce film, psychologiquement parlant, parce que ça lui demandait de faire beaucoup de recherches et passer évidemment ses journées dans la bibliothèque à bosser sur ce genre de recherches. On peut comprendre qu'au bout d'un moment, ça fout le bourdon. Scorsese, lui, en a gardé des flashs qui apparaîtront des années plus tard dans Shutter Island. Et Spielberg, lui, a dû lutter contre lui-même, en fait, pour s'autoriser à faire ce film-là, parce que c'est un cinéaste qui, d'une part, avait toujours un peu tu sa judéité dans son cinéma, mais comme dans sa vie aussi. Même si elle s'exprimait de façon métaphorique, je pense à un film comme Rencontre du troisième type qui en fait est bourré d'imagerie juive et kabbalistique, mais il n'avait pas encore fait la paix avec qui il était, on va dire. Donc il a fallu lui qu'il arrive à une certaine maturation pour pouvoir s'engager dans un projet comme celui-ci qui aussi a dû nécessiter des tractations politiques avec une Universal, le studio qu'il a littéralement enrichi, qu'il a pratiquement tenu à bout de bras pendant plus de 10 ans, depuis en partant de Jaws et de E.T. Et sur toutes les années 80 avec les films Amblin, etc. C'est Scheinberg, son père
mentor,
de substitution,
oui.
Voilà, son mentor qui était à la tête du studio. Et bien malgré le pouvoir jamais égalé que Spielberg avait pu avoir sur Hollywood en tant que réalisateur. Il n'avait quand même pas la liberté d'aller faire un film de 3 heures en noir et blanc sur la Shoah. Enfin, ça faisait un peu lourd, quoi, si tu veux. Alors, je me corrige tout de suite, ouais. Pas sur la Shoah, parce qu'on va développer, mais La liste de Schindler n'est pas un film sur la Shoah, mais ça, on expliquera plus tard.
Pas la liberté de le faire sans justement les attractions dont tu parlais, parce que l'idée, c'est qu'au même moment, il développait Jurassic Park, qui était l'adaptation du roman de Michael Crichton, qui était pour Universal un très gros enjeu. Finalement, en fait, ce qui s'est passé en coulisses, c'est que Sid Sheinberg lui a dit... À la base, il devait faire La liste de Schindler d'abord et Jurassic Park ensuite. Mmh. Et en fait, Sheinberg a demandé à intervertir. C'est-à-dire, il lui a dit, tu vas d'abord faire Jurassic Park, et après, tu feras La liste de Schindler. Et c'est ce qui validera, si tu nous fais Jurassic Park, ce qui validera le fait qu'on puisse donner le feu vert à La liste de Schindler. Aujourd'hui, je crois que l'idée, c'était que, comme c'est un film qui est très très personnel, très très sombre, sur un morceau de l'histoire très très funeste, je pense que, et que Jurassic Park en contrepartie est un film d'aventure plus léger,
oui, plus lyrique.
L'idée de Sheinberg, c'était de dire à Spielberg, si tu fais La liste de Schindler d'abord, Jurassic Park va forcément être entaché par ce que tu auras vécu, par ce que tu auras traversé. Après, il y a quand même une espèce de logique de tractation derrière de studio qui est assez dingue, quoi. Il y avait aussi Billy Wilder qui devait à un moment donné faire...
Il voulait que ça soit son dernier film.
Voilà, le film, en fait. Et c'est Billy Wilder lui-même qui a suggéré d'abord à Spielberg, lui a dit « Tu devrais le faire toi, en fait. Tu devrais le réaliser toi-même. »
Il y a eu aussi un autre réalisateur qui était à un moment donné, parce que quand Spielberg a récupéré les droits aussi, Universal et les droits, et Spielberg,
c'est un livre à la base.
Et Spielberg, il l'avait proposé, parce qu'encore une fois, il se sentait pas, comme disait Rafik, c'est pas facile d'aborder ça, surtout avec son rapport à sa judéité, puis même, Stéphane l'a dit aussi, c'est un morceau de l'histoire très 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 dur, donc il sentait pas forcément les épaules pour le faire à un moment donné, et il l'avait proposé à Roman Polanski aussi de le faire, et Roman Polanski avait dit non parce que c'était trop proche de lui, en fait. Lui était un échappé du ghetto de Cracovie, et sa mère était morte dans les camps de Cracovie.
Et donc
en plus le film est sur le ghetto de Cracovie, sa mère est morte à Auschwitz, donc c'était un lien qui était beaucoup trop important pour lui, quoi. Donc c'est vrai que Spielberg a dû aussi... Il y a une autre raison pour laquelle Spielberg, à un moment donné, donc au-delà d'avoir fait ce travail sur lui-même aussi, c'était une période aussi, potentiellement, il y avait des remontées pas mal d'antisémitisme. On était post-chute du mur, peu de temps... Enfin, il y avait la chute du mur qui était en cours après la guerre froide. Il y avait aussi des remontées comme ça d'antisémitisme, de ce genre de choses, des faits qui arrivaient. Et il a pris un petit peu peur et il s'est dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Ce film avait une importance à un moment donné aussi, dans son message, par rapport à ce qui se passait mondialement, en fait.
Il y avait aussi un tabou manifeste à faire un film qui se passe ne serait-ce qu'en partie dans un camp de la mort, même si à l'époque de la sortie de La liste de Schindler, les gens semblaient avoir oublié que déjà des films avaient tenté de franchir cette barrière, mais on avait payé parfois le prix très fort, et je pense notamment au Capot de Gillo Pontecorvo qui met en scène les camps et qui a littéralement servi de base au cahier du cinéma à décrire l'abject dans un article qui s'appelait De l'abjection, qui était concentré sur ce film et qui depuis en gros nous fait croire à ces conneries qui sont un travelling est affaire de morale, au sens où voilà, de faire de la mise en scène sur des images comme celle-ci, c'est immoral, et qui a entraîné d'ailleurs tout un cinéma du non-effet, de la non-mise en scène,
dès qu'on aborde
quelque chose qui est de trop dur, en fait, dans notre humanité.
Ce qui n'est pas du tout le cas de La liste de Schindler.
Mais justement, voilà. Et c'est là où le tabou a été brisé par le plus grand metteur en scène vivant, donc, puisque La liste de Schindler n'est que mise en scène. Il n'est que la réflexion à chaque plan de comment je peux filmer ça, quel droit moral j'ai à filmer ceci et cela. Et merci à ce film d'exister, parce qu'il nous a vraiment débarrassé de 30 ans d'une censure réelle, en fait. Il y avait eu un film comme Portier de nuit aussi, qui s'était un petit peu approché de... de ce sujet-là, mais d'une façon, on va dire, approuvée par les élites de son époque. Par exemple, pour revenir au cahier, à leurs théories qui ont eu beaucoup d'impact sur le non-traitement de ce sujet, Godard avait dit que la seule façon de faire un film sur les camps de concentration, ça serait de faire un film sur l'administration. Parce que c'est là que l'horreur s'est vraiment déclarée, en fait. Des gens qui tuent des gens, il y en a partout dans le monde tout le temps. La chose précise et particulière concernant la Shoah, c'est que tout ça a été décidé d'une manière extrêmement ordonnée, administrative et froide,
inhumain,
en fait.
Quoi.
Et inhumain, purement inhumain. Ça, c'est résumé dès le début par Spielberg, qui, soit dit en passant, est un amateur de Jean-Luc Godard, oui. par l'ouverture du film, qui nous montre les gens venir s'inscrire, et en fait on a cette machine à écrire qui met tous les noms et qui déjà nous indique effectivement ça s'appelle la liste de Schindler, et ça, la liste, ça veut dire ça, c'est une liste qui sert à tuer des gens comme ça peut être une liste qui va servir à les sauver. Donc tout est conditionné par cette idée de comment, moi qui ai 20 ans de films d'action, de SF, d'entertainment, d'héritage hitchcockien dans mon cinéma, etc., je peux m'attaquer à quelque chose qui appartient pas du tout à ce domaine-là. Et il va le faire en partie en émulant des films qui sont pas de son univers. J'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup ni à l'époque ni aujourd'hui insisté sur les emprunts au style visuel de l'école de Lodz, donc l'école de cinéma polonaise, d'où sont sortis au milieu des années 50 tous les cinéastes polonais les plus célèbres, de Wajda, Polanski et compagnie. Il y a des vrais emprunts de Spielberg à ces cinéastes-là. Il est allé chercher Janusz Kaminski pour faire la photo du film, tu vois. Il avait besoin,
il ne l'a plus jamais lâché.
Voilà, mais il avait besoin d'un regard spécifiquement européen sur quelque chose, parce que c'est un Américain. Les Américains, ils connaissent d'autant moins la Shoah qu'ils savent même pas comment un truc comme ça a pu exister et se mettre en place, tu vois. Les Polonais, ils savent, même ceux qui l'ont pas vécu, c'est dans leur environnement ce truc, quoi. Je sais même pas comment l'appeler. Donc voilà, visuellement, scéniquement, il y a un vrai travail de réflexion qui est stupéfiant, quoi.
Mais même assez globalement, même de par la démarche déjà du film, on sent que il y a une vraie prise de conscience, en fait, de toute façon, de la part de Spielberg. Il le disait lui-même dans une interview à l'époque, je sais pas, Newsweek ou quelque chose comme ça. Il avait dit je suis un cinéaste de l'imaginaire et j'ai découvert la réalité en quelque sorte avec la liste de Schindler, oui. En fait, et le fait, cette recherche de réel, comme tu le disais là, sur aller chercher l'école polonaise, etc., donc vraiment, oula, attention, l'attaque du micro. vraiment, en tout cas, essayer d'être au plus proche d'une forme de réalisme, de réalité, même s'il y a encore une part d'imaginaire, hein, toujours, mais il y a toujours cette idée de prise de conscience, ce qui est à la base du personnage de Schindler, en fait. Schindler, c'est un personnage qui, à la base, est un nazi. Hein,
un nazi de circonstance.
Non, mais il avait sa carte.
Un industriel, et il prend la carte c'est comme ça qu'on peut faire du business.
Voilà, mais c'est quelqu'un qui est un nazi de circonstance, mais c'est quelqu'un voilà, qui n'était pas non plus ni pour ni contre, bien au contraire. Je tire mon parti. Et c'est ce qui est intéressant aussi chez Spielberg, c'est qu'il ne va jamais dire que c'est un saint dessin. Hein. C'est
pas
que
du tout,
clairement, il y a une réflexion là-dessus. Mais c'est un personnage qui va être dans la prise de conscience, comme lui, Spielberg, a eu une sorte de prise de conscience par rapport à lui-même. Et ça se voit dans sa mise en scène, encore une fois. Ce qui est le plus évident, c'est cette scène donc, où le personnage de Schindler voit le ghetto de Cracovie se faire vider, avec la petite fille, la fameuse petite fille en rouge. Qui est donc tirée d'ailleurs d'un personnage qui est réel. Hein. Il voit cette petite fille en rouge, d'un seul coup on a un personnage qui sort de la masse, et donc le personnage va prendre conscience de l'horreur nazie, etc. Mais aussi c'est Spielberg qui prend aussi conscience de l'humanité dans le déshumain, c'est-à-dire que on parle toujours de la tragédie juive, de la tragédie de l'Holocauste, mais de manière d'un ensemble, c'est un ensemble de personnes qui ont subi ça, et d'un seul coup il rappelle, grâce à cette image de la petite fille notamment, et aussi par rapport à une scène qui fait écho, c'est la scène où les deux personnages, j'ai un trou là, Schindler et Ben Kingsley, Isaac, ils vont quand ils font la liste, et ils sont obligés de se rappeler des noms des gens de tête pour les noter, et ils sont obligés de s'en rappeler, donc d'un seul coup on redonne une...
Isaac Stern.
Donc on est obligé de redonner une individualité, une personnalité aux gens. En fait, Spielberg est en train de nous rappeler, oui, c'est un drame global, ça a concerné 6 millions de personnes, mais chaque personne est un individu, chaque personne est un humain, chaque personne a subi quelque chose, c'est un drame.
Personnel.
Il y a un drame personnel collectif. Dans chaque histoire. Dans le collectif, c'est d'abord un drame personnel. Et donc, c'est cette prise de conscience-là que fait le personnage de Schindler, mais qui est aussi une prise de conscience que Spielberg fait, et que le spectateur finit par faire, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est plus seulement en train de se dire « Oh là là, l'Holocauste » avec un grand mot, c'est des gens, des humains, qui ont chacun leur vie et leur individualité, ont subi une horreur absolue. Donc chaque histoire est différente, mais chaque histoire peut se regrouper sous un terme. Mais il y a cette idée de la prise de conscience que je trouve extraordinaire, parce que c'est la prise de conscience d'un cinéaste qui arrive à nous le mettre par la mise en scène et faire une prise de conscience du spectateur. C'est quand même très très très... Enfin, on va arrêter de praise de Lord de toujours à chaque fois que c'est Spielberg, mais c'est parce qu'on le pense tous. Mais faut quand même toujours rappeler que Spielberg, c'est un très grand conteur, mais c'est surtout un très très grand metteur en scène. Et qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il n'a pas oublié que le fond est aussi important que la forme chez lui. Oui. C'est ça qui est incroyable.
La forme appelle ce que tu dis aussi, c'est-à-dire que dans... je pense que le film, il a un aspect définitif, en fait, et c'est pour ça qu'il ressort aujourd'hui, 25 ans après, enfin un peu plus, quoi, et qui fait œuvre d'autorité, comme il n'aurait pas forcément fait à l'époque pour tout le monde. Hein. Je veux dire, il a eu l'Oscar, meilleur film, meilleur réalisateur, tout ça, mais c'est un film qui a été critiqué, alors pas vraiment à Hollywood, mais en France, en tout cas, clairement, ça a été le cas à l'époque, quoi, avec des débats télévisés, enfin, moi, je m'en rappelle, pour les avoir vus en live, enfin qui était assez assez consternant, quoi, et parce que justement ce qui était reproché à Spielberg, c'était de faire du cinéma et en premier lieu, et le truc c'est qu'on
parlait de cow-boy à l'époque,
il arrivait comme un cow-boy sur le sujet,
ouais, il disait ouais, c'est, les Américains avec eux, on sait que les cow-boys vont gagner à la fin,
enfin il y avait des accusations d'antisémitisme, enfin ce qui était complètement aberrant, enfin je veux dire on en arrivait là en fait, et le problème en fait c'est que cet aspect définitif du film, en fait, c'est parce qu'il y a, à un moment donné, il y a une... Alors que c'est pas un film... c'est un film de la toile de fond, la Shoah est dedans, mais le truc, c'est que c'est un film sur les survivants. Et l'idée, en fait, c'est de montrer clairement, en fait, la façon dont chaque petite histoire, chaque petite anecdote, en fait, va nourrir, à travers le fil conducteur des personnages principaux, va nourrir, en fait, si tu veux, ce récit, lui donner une importance. Je pense que tu demandes à n'importe qui, alors, autour de cette table, mais aux gens qui ont vu le film, tout simplement, en fait, ils ont des images. On parle de la gamine en rouge, évidemment, mais... moi, il y a ce gamin qui tombe dans les latrines, il y a ce nazi qui pète un boulon en fait devant devant le brasier, il y a tout un tas d'images comme ça en fait qui te reviennent, qui sont très très fortes et qui pour certaines en fait juste durent comment dire peut-être 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes à l'écran et qui nourrissent énormément en fait le sujet. C'est pour ça qu'il a, je pense, aussi un espèce d'aspect définitif en fait qui est appelé par la mise en scène. Il y a le choix, bon, le noir et blanc, etc., etc., mais le truc c'est qu'il y a une espèce de logique de, j'ai pas envie de dire de devoir de mémoire au sens strict du terme, comme on pourrait, parce que c'est un grand sujet, il faut en parler, il faut le traiter comme ça, mais vraiment en fait comme dans la façon de raconter, l'utilisation en fait de, t'ouvres une boîte avec des photos en noir et blanc et tu montres les choses aux gens, et en fait c'était cette époque là et je pense qu'il y a cette notion là en fait, si tu veux, et c'est une notion de conter le récit en fait, c'est une notion de manière un peu extra cinématographique, mais c'est là en fait, c'est prégnant, et d'ailleurs cette idée en fait à un moment donné même littéralement de sortir du film en fait à la fin du film, et de ramener la réalité, voilà,
la réalité.
C'est presque, c'est même pas que ça contredit, mais ça confirme en fait ce que le film fait à ce moment là quoi.
Ce qui donc sur l'image très forte de Neeson lui-même, du personnage, voilà, qui vient honorer la mémoire
après,
du vrai personnage.
Quand on dit c'est un film de cinéma, c'est que c'est un film de Spielberg, c'est-à-dire que même si lui, alors apparemment il a plus ou moins repensé son fonctionnement, sa méthodologie en fait, il a par exemple, apparemment il a pas du tout storyboardé le film,
pas du tout,
ce qui était pas courant à l'époque pour lui. Quoi.
Il a tourné beaucoup de choses lui-même,
voilà,
aussi, à l'épaule.
Voilà, il y a l'idée, par exemple, si tu veux, ils avaient les moyens de tourner à Auschwitz, il a évidemment décidé de répliquer le camp de l'autre côté pour ne pas, comment dire, tourner dans le décor même. Lui, il a vécu le tournage de manière très très intense,
violente,
et très très violente, quoi. Sans à aucun moment donné, en fait, perdre ses capacités en fait de conteur. C'est-à-dire que quand on doit te montrer, t'expliquer pourquoi un personnage de Schindler, le personnage de Schindler est séduisant, comment il va réussir à convaincre en fait, si tu veux tout simplement les autres en fait de faire passer ces gens-là en fait, de les sauver, il te le montre comme un personnage extraordinairement charismatique au début, comme une star de cinéma, quoi. Ouais. C'est-à-dire il y a une logique de séduction. Quand toi en fait, il joue sur ta propre mémoire, ta propre connaissance en fait du cinéma, enfin pardon du cinéma de l'histoire en fait, et qui te joue sur une logique de suspense, en fait, avec les douches, c'est du cinéma, en fait, c'est du pur cinéma. Et ça, ça lui a été beaucoup reproché, en fait. Alors, ça lui a été reproché sur ce point spécifique, en fait, cette scène spécifique.
Et c'est très intéressant, parce que si on décortique ce qui a bloqué à l'époque, en fait, ça se retourne complètement contre les accusateurs. Parce que ça, c'est une méthode que Spielberg a utilisée sur plusieurs de ses films, qui est de frustrer le public pour lui donner quelque chose en plus, mais il joue sur la frustration du public. Il le faisait sur Rencontre du Troisième Type, il l'a fait tout le temps. Et sur la liste de Schindler, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé sur cette séquence-là, où on a l'impression qu'on va inexorablement vers les douches de la mort, et qu'il s'avère que ce sont de vraies douches, c'est qu'une partie du public s'est dit... s'est révélé frustré de ne pas voir. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient payé pour voir ça.
Et on
refusait de leur montrer ça. Et pour moi, je l'ai vraiment pris, comme, en tant que cinéphile en tout cas, comme une des rares accusations de Spielberg envers son public dans un de ses films. Du genre, mais vous vous attendiez à quoi, là?
Je
fais un film sur les survivants. Et de le voir critiqué précisément pour cette séquence...
Il l'a fait sur d'autres films derrière, après. Hein, il l'a fait sur d'autres films incompris, où les gens l'attendaient sur certains trucs. Et on pense à A.I., par exemple, Mais vas-y, je t'en prie, vas-y.
Mais ça, c'était, encore une fois, pour moi, un questionnement moral. C'est typiquement un choix de mise en scène guidé par un questionnement moral. Il y a aussi une autre scène que je trouve assez emblématique de sa façon de fonctionner, qui est un des rares moments du film où il décide de faire rire le spectateur, pour le prendre aussi à son propre piège, qui est le moment où Amon Goethe, donc, qui est joué par Ralph Fiennes, décide de suivre le conseil d'Isaac et de faire preuve de clémence. Et alors que un gamin a fait un truc qui lui a pas plu et que en temps normal il l'aurait buté sur le champ, il se prend tout d'un coup pour un empereur, quoi, et il lui met les doigts sur la tête en lui disant je te pardonne, bon, et ça fait rire c'est le but de faire rire le public dans la salle. Et ensuite on suit Isaac à l'extérieur, qui est en train de marcher de façon très nerveuse. On le suit en travelling, on entend un coup de feu hors champ. Et dans le travelling, on aperçoit derrière, en arrière-plan, le corps du gamin, en fait, d'Amon Goethe, qui a finalement changé d'avis. Et donc, il y a une espèce de détachement de la mise en scène dans toute la scène, entre guillemets, rigolote. Il n'y a pas de mise en scène, c'est une espèce de chant contre chant assez basique, où vraiment le public se laisse aller et rigole. Et tout d'un coup, la mise en scène revient avec ce travelling hyper chorégraphié. Et ce que tu découvres, c'est que tu étais en train de rire, là, au fait. Tu vois, enfin, vraiment, on est tout le temps tiraillé entre le confort de sa position de spectateur, de oui, moi je suis du bon côté de l'histoire, je regarde ça de loin, je suis coupable de rien. Ouais. Et régulièrement, on est ramené à ouais, mais t'as une attente, il y a quelque chose qui te guide vers cet instant de mort. Et ça, c'est pas ce qui a été remarqué sur le film à sa sortie. Il y a eu aux États-Unis, notamment, pas vraiment en France, mais aux États-Unis, une espèce de respect presque religieux, non pas forcément du film, mais de l'objet qu'il traitait. Il y a même un épisode hilarant de Seinfeld, de la série Seinfeld, à ce sujet-là, où en fait il va voir la liste de Schindler, parce que tout le monde autour de lui va voir la liste de Schindler, et en fait il sort avec une nana et les gens le voient rouler un palo pendant la liste de Schindler, et ça devient un scandale dans tout le quartier. Mais familial. Voilà, mais qui mettait le doigt sur ce côté rituel d'aller voir ce film pour rentrer en contact avec tous nos ancêtres qui sont morts, quoi, qui échappaient complètement au cadre cinématographique pour devenir un objet vraiment de rituels sociologiques et de devoirs de mémoire. La question de l'Oscar, elle s'est posée aussi en ces termes-là. Est-ce que l'Oscar lui a été donné parce que c'était le meilleur film qui soit, ou est-ce que l'Oscar lui a été donné parce que le sujet imposait l'Oscar? Je trouve presque dommage que Spielberg ait eu l'Oscar pour ce film-là, parce que, oui, de toute évidence, La liste de Schindler était clairement le meilleur film de l'année où il est sorti.
Avec Jurassic Park.
Non, je suis désolé. on a atteint des niveaux dans la perfection cinématographique qui sont stupéfiants avec eux. Mais on avait quand même le sentiment que l'Oscar lui avait été plus donné comme un...
Peut-être,
mais... Pour récompenser le courage d'avoir abordé un sujet difficile. Oui,
peut-être, mais l'idée, c'est que quand tu regardes un film comme La liste de Schindler, et c'est assez évident quand tu regardes le reste de la carrière de Spielberg par la suite, on a parlé de Janusz Kaminski, qui est devenu son chef-op attitré, oui. Alors qu'il en avait plusieurs, en fait, avant. Depuis, quoi. Mais il y a aussi... j'ai l'impression, la première véritable introduction de la caméra portée chez Spielberg, c'est là-dedans, et tu la retrouveras dans des films comme Minority Report.
On l'avait déjà dans Empire du Soleil, qui était aussi un film dur.
Et là, ça me semble plus évident, en fait, quand tu regardes dans le film, mais peut-être aussi le sujet apporte j'arrive plus à me rappeler, en fait, de la mise en scène grandiose de l'Empire du Soleil, plutôt que ces moments-là, quoi. Et c'est quelque chose, en fait, une espèce de libération, en fait, que tu retrouves, en fait, dans ces autres films. En tout cas, ce qui compte, j'ai envie de dire, hein, pas des trucs comme Amistad, forcément, mais je veux dire, des trucs comme Minority Report. Il y a, enfin, je veux dire, c'est quand même difficile quand tu regardes La Guerre des Mondes de pas, dans certains plans, dans certaines images, en fait, clairement penser à la façon de procéder des créatures et des nazis dans La liste de Schindler. C'est-à-dire vraiment et la façon dont c'est filmé, la façon dont c'est montré, hein, des immeubles entiers, en fait, qui se font pas raser, mais qui se font détruire de l'intérieur, bah,
on
en fait.
Voilà. Dans La Guerre des Mondes, les vêtements qui tombent du ciel, hein, comme.
Voilà, c'est ça. Donc, t'as tout un tas d'images fortes, de façons de procéder fortes, en fait. Ça a changé sa façon de faire du cinéma, tout simplement. Ça l'a changé, lui, profondément. Comme j'ai tendance à penser que sa façon de faire du cinéma émane littéralement de lui, c'est-à-dire de façon extraordinairement intuitive, je pense que ça a tout simplement changé sa façon de faire du cinéma aussi, puisque ça l'a changé lui.
Vas-y. Mais c'est aussi, ça a changé sa façon de faire du cinéma, mais ça a aussi changé un peu la perception que le milieu avait de lui aussi, en grande partie. Enfin, avant La liste de Schindler, il y a eu évidemment L'Empire du Soleil, il y a eu La couleur des sentiments, mais La couleur des sentiments, la couleur pourpre.
Oups.
Parce que je suis fatiguée. La couleur pourpre, mais c'est vraiment le film qui l'a assis de manière générale, de manière forte et définitive, comme pas qu'un cinéaste du divertissement, pas qu'un cinéaste de l'entertainment, mais un cinéaste aussi d'auteur, un cinéaste en tout cas important dans un truc un petit peu snobinard, j'ai envie de dire, où on pourrait dire, ah bah voilà, il sait faire des trucs à sujet, quoi. Donc et les années 90, ça a été ça aussi, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui... Les années 90, pour Spielberg, c'est des années qui l'ont définitivement assis, à la fois comme le roi du divertissement, hein, on a Jurassic Park, on avait...
Jurassic Park.
Non, mais Jurassic Park.
Tu veux mettre Hook dans le...
Non, mais Hook, bon, Hook, ça n'a pas été une bonne réception critique, mais ça a été en tout cas, au niveau du public, il y a eu du monde, hein. C'est pas non plus pas un échec du tout de la part de Spielberg, mais en plus il y a eu La liste de Schindler, il y a eu bien sûr, je trouve plus mes mots,
Soldat
Ryan et Amistad, qui aussi était quand même... Amistad, on en pense qu'on en veut, mais c'était aussi un film à sujet très très fort, qui a été mal réceptionné, particulièrement aux États-Unis, parce que c'était un sujet que les États-Unis n'avaient pas forcément envie de voir non plus, qui pour le coup les touchait d'un peu plus près que potentiellement La liste de Schindler, puisque c'était chez eux. Ça l'a assis définitivement, c'est-à-dire que d'un seul coup il devenait ce cinéaste presque bipolaire, une sorte de dichotomie à l'intérieur d'un même bonhomme qui à la fois peut être dans le cinéma d'auteur et peut être dans le divertissement, et montrer qu'en fait le divertissement n'est pas synonyme d'absence de mise en scène ou de réflexion, en fait. C'est pas synonyme d'abêtissement. Mais en tout cas, voilà, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a montré que le divertissement était aussi pouvait être quelque chose d'un petit peu plus autorisant, et on s'est mis à repenser aussi un petit peu le divertissement grâce à lui, quoi.
Pour terminer, chers amis, on va faire comme toujours un petit tour de recommandations. Vous pouvez rester dans l'univers de votre choix. Vous pouvez continuer à parler de Steven Spielberg, parce que c'est toujours un bonheur pour moi. Rafik.
J'en ai parlé tout à l'heure, mais si vous avez de bonnes opportunités de voir le film de Gillo Pontecorvo, Capo, regardez-le, juste pour faire chier.
Rivette
et la nouvelle vague.
Très bien, ok, très bien, c'est plutôt une bonne option, Perrine.
Pour rester dans le fun et la façon de filmer des camps, façon de filmer des camps, et qui avait fait aussi très 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 polémique à l'époque de sa sortie, c'est un court métrage pour le coup, mais c'était d'Alain René, Nuit et brouillard, qui parle des camps et qui les filme avec en noir et blanc, avec une voix off qui raconte. Et il n'y a pas d'image de corps ou de quoi que ce soit, c'est juste on observe. Et ça avait vraiment fait aussi polémique à l'époque, justement, de comment on peut filmer ou pas les camps, est-ce qu'on a le droit de filmer et pas filmer. Et ça, je pense que ça a aussi en partie nourri à mon avis, Spielberg l'a vu, parce que ça date de 56. Hein. Donc ça, c'est
interdit
très peu...
en France longtemps, parce qu'on voyait un gendarme français, je crois.
Exactement, oui, parce qu'on n'assumait pas du tout. Comment toute la France avait été résistante. Et donc, c'était pas nous. Et donc, je pense que ça a aussi influencé, mine de rien, la manière de Spielberg de filmer sa liste de Schindler.
Tout d'un coup, deux autres recoups qui sont arrivés. Parce
d'accord.
Tu as parlé de Billy Wilder tout à l'heure, et ça m'a fait penser qu'il a fait ce film Stalag 17, hein, qui se passe dans un camp allemand, donc ça c'était intéressant. C'est aussi, hélas pour lui, à l'origine de cette série un peu de merde qui était Papa Schultz, qui a été tiré du film au départ. Et également un film d'Hélène Klimov qui s'appelle Requiem pour un massacre. Donc si vous avez envie de passer une bonne soirée entre amis, vous enchaînez la liste de Schindler et Requiem pour un massacre. Je pense que vous
avec une pause nuit brouillard pour manger.
Vous faites Shoah de Lanzmann toute la nuit après, puis vous serez bien au matin. Stéphane.
Comme ils le disent, tu sais, la liste, c'est la vie. Alors, moi aussi, j'ai fait une petite liste, tu vois, avec mes recos.
Il sort une liste.
Dans le passeport.
Non, mais je fais hop. Qu'est-ce que tu dis là?
Il y a marqué Anaconda.
Ah c'est Marocco.
Combien de fois?
Il a marqué plusieurs fois parce qu'on fait plusieurs émissions. Non, mais
il faut préciser qu'il a vraiment une liste avec écrit Anaconda partout.
Vous ne le voyez pas, mais si.
Regardez, donc j'ai lissé. Et puis bon, c'est un autre truc. Et
donc il reste plein d'autres Anaconda pour les prochaines émissions.
Je sais pas, on verra.
On verra.
On laisse le suspense, la surprise.
Ok, très bien. Voilà. Très bien, merci.
Restons sobres.
Mais restons sobres, exactement. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Solène, à la technique, à Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
Binge.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.